Vous êtes sur RTL.
RTL dimanche soir, le Mag Poll.
Vincent Parisot.
Le magazine politique de la rédaction d'RTL avec ce soir le grand jury RTL, Le Figaro, LCI, Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères. On va vous en proposer les moments forts et débriefer avec Benjamin Sportouche qui a mené les débats. Au menu également, le reportage Mag Poll consacré à ces ministres qui rament dans le désert, qui passent sous les radars par ces temps de Covid. Et puis avec Jean-Mathieu Perdin, comme chaque dimanche soir, on ouvrira les archives.
RTL, dimanche soir,
le Mag Poll, Vincent Parisot.
Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, était donc à la mi-journée l'invité du grand jury, RTL, Le Figaro et LCI. Alors les grands dossiers internationaux ont été évoqués évidemment, mais également la crise sanitaire et l'imminence de l'arrivée de vaccins sur le marché. Après, avec plusieurs questions qui se posent désormais sur les achats européens de vaccins, sur le dispositif qui sera mis en place en France pour vacciner, mais aussi sur l'éventuelle obligation. Chaque chose en son temps et attention aux effets d'annonce, dit Jean-Yves Le Drian.
Pour l'instant, on n'a pas le vaccin. Il va y en avoir 5, 6, 7, peut-être plus. Il faut les tester, il faut les vérifier, il faut avoir les autorisations de mise en marché. Il faut ensuite que la Haute Autorité de la Santé valide tout cela en France. Et puis, il faut faire vacciner les Français progressivement, parce que les vaccins ne sont pas tous les mêmes. Et qu'il faudra gérer le bouquet de vaccins que nous allons mettre en œuvre et faire en sorte que progressivement, on identifie les catégories prioritaires. La question principale, à mon avis, c'est de savoir qui on identifie au départ comme les personnes qui doivent d'abord se faire vacciner. Est-ce que ce sont les personnes à risque? Est-ce que ce sont les personnels de santé? Est-ce que ce sont les enseignants? Est-ce que c'est un cocktail de tout cela? C'est la première démarche, mais il y a aujourd'hui, vous le savez, une task force vaccin autour du président de la République et du Premier ministre pour élaborer les synergies. On est plutôt en bonne posture sur les vaccins. On a des signes positifs. L'Union européenne a fait ce qu'il fallait pour préempter, pour acheter par anticipation dans différentes entreprises qui sont productrices de vaccins. Maintenant, il faut vérifier, s'assurer de la faisabilité, s'assurer de l'innocuité des vaccins pour ensuite nous rassurer.
Voilà, donc Jean-Yves Le Drian, il a été question de la crise sanitaire dans son grand jury. Mais évidemment, puisqu'il est ministre des Affaires étrangères et de l'Europe, on a regardé de l'autre côté de l'Atlantique en cette période plutôt trouble là-bas, 3 semaines après l'annonce de la victoire de Joe Biden. Pour Jean-Yves Le Drian, ce qui s'est passé depuis le scrutin et notamment les recours, les recomptages, relevaient de la pratique démocratique américaine. Mais désormais, c'est un peu différent.
Jusqu'à là, les procédures prévues par les institutions américaines se déroulaient normalement jusqu'à ce qu'il y ait cette déclaration du patron, M. Krebs, du patron de l'agence de vérification informatique des élections, qui a déclaré publiquement « Jamais des élections n'ont été aussi claires, aussi transparentes dans l'histoire des États-Unis. »
Donc Donald Trump viole la loi, en quelque part.
Et pas pour l'instant. Et du coup, il l'a démis de ses fonctions. Là où ça va devenir plus compliqué, c'est autour du 8 décembre, pour le moment où les États vont désigner les grands électeurs. Et là, on apprend qu'il y aurait des pressions qui seraient effectuées auprès des autorités des différents États pour ne pas reconnaître le résultat tel qu'il avait été acté. Dans l'état actuel des choses, ça ne marche pas. Mais nous sommes en phase de ce que Joe Biden dit être d'une incroyable irresponsabilité, et je partage ce propos de Joe Biden. Je ne me suis jamais exprimé de cette manière, mais on arrive à un point.
Vous me dites que Donald Trump est irresponsable.
Je constate que la déclaration de Joe Biden correspond à la réalité, et je le dis très clairement.
Voilà, Jean-Yves Le Drian qui reprend donc sur RTL à son compte les propos de Joe Biden sur l'incroyable irresponsabilité de Donald Trump. Et puis, bien sûr, le dossier turc, ou plutôt le dossier Erdogan, a été abordé. Et là, clairement, le ministre des Affaires étrangères hausse le ton, il demande à Ankara de changer de logiciel.
J'ai déjà évoqué à de nombreuses reprises les désaccords très importants que nous avons avec la Turquie sur cette volonté expansionniste, d'un côté, cette politique du fait accompli, parallèlement, que ce soit en Libye, où ils envoient des mercenaires syriens pour combattre d'un côté, que ce soit en Irak, où ils occupent la partie nord de l'Irak au nord du Kurdistan irakien, que ce soit en Méditerranée orientale, où ils agressent de fait deux pays membres de l'Union européenne, que sont Chypre et la Grèce, que ce soit au Karabakh, où ils envoient aussi des mercenaires syriens, que ce soit aussi en Syrie. Nous avons beaucoup de désaccords. Il faut les traiter les uns après les autres, mais il faut encore avoir une disponibilité de la Turquie pour les traiter. Or, qu'est-ce que nous avons constaté depuis quelque temps? C'est qu'il y avait, de la part du président Erdogan, singulièrement au moment de la phase terroriste en France, mais aussi en Europe, des propos calomnieux qui ne prête pas à la discussion et au dialogue. Et donc, la question est posée aujourd'hui à l'Union européenne.
L'Union européenne, pour des sanctions qu'on attend
l'Union
toujours
européenne
contre la Turquie.
A annoncé au mois d'octobre qu'elle vérifierait la posture de la Turquie sur ces différents sujets au moment du Conseil européen du mois de décembre. Et c'est à ce moment-là qu'on va vérifier les engagements. Il ne suffit pas que depuis deux ou trois jours, l'on constate des déclarations apaisantes de la part du président Erdogan. Il faut des actes.
RTL, dimanche soir.
Le MacPol, Vincent Parisot.
Voilà donc pour le grand jury de Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères. On y revient maintenant avec celui qui a mené ce débat. Bonsoir Benjamin Sportouche.
Bonsoir Vincent.
Alors on vient de l'entendre sur l'Europe et les vaccins, sur les États-Unis, sur la Turquie. Mais n'oublions pas évidemment la politique intérieure parce que il est le marqueur de la gauche au gouvernement, un des marqueurs.
Oui, il devrait l'être. Hein. C'est aussi pour ça qu'il a été pris dans ce gouvernement, qu'Emmanuel Macron l'a attiré vers lui dès 2016. Hein. Il est allé le chercher. C'était quand même quelqu'un de très proche de François Hollande, qui a été, je le disais en début d'émission, au Parti Socialiste pendant 44 ans. Donc il est censé incarner cette fibre de gauche. Sauf que c'est vrai que dans les faits, on sent bien que les ministres qui ont le plus de poids aujourd'hui, c'est Gérald Darmanin, c'est Bruno Le Maire, qui sont tous issus de la droite. Donc la voix de gauche, on ne l'entend pas tant que ça. Et bien lui, il a voulu nous dire, si, elle est là, regardez, sur la loi de sécurité globale qui a fait tant polémique ces derniers jours, sur l'article 24, notamment sur le floutage des visages des policiers, il a laissé entendre, il a même dit assez clairement, qu'il avait agi en sous-main.
Et que la réécriture, il était un peu derrière la réécriture.
Alors, c'est vrai qu'il a l'oreille du président. C'est peut-être aussi la manière d'agir de Jean-Yves Le Drian, qui a une diplomatie secrète discrète et qui a aussi une manière politique secrète d'influencer le président de la République.
En tout cas, pour 2022, il a fait son choix.
Ah bien, il a fait son choix. Et là, il est solidaire du gouvernement, quoi qu'il arrive. C'est pas demain la veille qu'il va soutenir François Hollande, c'est pas demain la veille qu'il va retourner vers le Parti Socialiste. Son choix, c'est Macron, quoi qu'il arrive, et parfois, quitte à donner l'impression d'être une caution de gauche sans qu'il l'incarne totalement réellement.
RTL, dimanche soir.
Le MacPol, Vincent Parisot.
Le reportage MacPol à présent, et il est consacré à ces ministres absents de la scène politique et médiatique. Ah, vous avez dû noter qu'en ces temps de Covid, de confinement, il n'y en a que pour les ministres concernés par la crise sanitaire et puis par le terrorisme aussi. Ces ministres qui participent aux différents conseils de défense. Et bien évidemment, les autres ont beaucoup, beaucoup de mal à exister. Bonsoir Vincent Derosier.
Bonsoir.
Et on a presque oublié que le gouvernement Castex comptait 43 membres.
Oui, et vous connaissez certainement l'expression consacrée, on parle d'armée mexicaine. Eh bien, dans cette armée, il y a aussi l'unité d'élite, ces ministres qui passent à la télé et à la radio, ceux qui ont le droit de s'asseoir autour de la table du Conseil de défense, Olivier Véran, Bruno Le Maire, Jean-Michel Blanquer, Gérald Darmanin ou Elisabeth Borne, ministre du Travail. Pour les autres, c'est la déprime. Aujourd'hui, tacle un poids lourd du gouvernement. Il y a 35 ministres au chômage.
Enfin, quand même, Vincent, il y a d'autres sujets que le virus et la sécurité.
Oui, mais même pour les ministres de premier plan, c'est dur. Regardez Barbara Pompili à l'écologie. Pour être audible, elle a dû lancer une opération pour inciter les Français à trier leurs masques. Autre exemple, l'agriculture, on ne peut pas parler d'un petit sujet. Et pourtant, le ministre Julien de Normandie est obligé de parler des fêtes de Noël.
La question fondamentale, c'est est-ce que oui ou non, on va pouvoir acheter des sapins à Noël?
Oui, alors c'est quoi les arbres?
La réponse est oui, on va pouvoir acheter des sapins à Noël.
Des sapins pour Noël à la place du salon de l'agriculture qui n'aura pas lieu, vous le savez, cette année.
Et alors, tous les autres, comment ils font pour ne pas totalement disparaître des radars ?
Alors, à chacun sa technique. D'abord, bien surfer sur l'actualité. Le secrétaire d'État à la ruralité, Joël Giraud, s'est fait connaître cette semaine en expliquant qu'il n'était pas optimiste sur l'ouverture des stations de ski cet hiver. La ministre de la Mer, Annick Girardin, elle, a participé au coup d'envoi du Vendée Globe. Autre stratégie massivement utilisée, les vidéos sur les réseaux sociaux, bien sûr, comme celle de Jacqueline Gourault à la cohésion des territoires.
Aujourd'hui, nous annonçons la création de 4000 postes de conseillers numériques.
Et un peu de musique pour bien faire passer le message. Invitez-moi s'il vous plaît, je suis prêt à parler du Black Friday ou des vaccins, même si ça n'est pas du tout dans mon périmètre ministériel, se désole un membre du gouvernement. Le problème, c'est que depuis la crise du coronavirus, Matignon valide toutes les prises de parole médiatiques de ses ministres et beaucoup sont priés de se taire.
Reportage MacPol sur ses ministres oubliés du gouvernement, c'était signé Vincent Derosier.
RTL, dimanche soir.
Le MacPol, Vincent Parisot.
Et comme chaque semaine, dans le MacPol, on retrouve Jean-Mathieu Pernin. Bonsoir Jean-Mathieu.
Bonsoir.
Et ses archives. Pourquoi ? Eh bien parce que cette semaine, la commission des lois de l'Assemblée a validé une proposition de loi qui ajouterait l'accent à la longue liste des causes de discrimination sanctionnées par le code pénal. Les accents et la politique, Jean-Mathieu, ça vous a rappelé quelque chose?
Et oui, savez-vous que l'on vit un moment unique dans la Ve République? En effet, c'est la première fois depuis 1958 qu'on entend ça.
Je pense même, comme moi, qu'ils ont pu identifier un style.
Et oui, Jean Castex est le premier locataire de Matignon à avoir l'accent. Chose de plus en plus rare dans le milieu politique. Aucun ministre n'a un accent véritablement prononcé. Un candidat, Jean Lassalle, en 2017, n'hésitait pas lui à le revendiquer. Depuis plus de 60 ans, rares sont ceux à avoir assumé, sauf peut-être en 1969, le communiste Jacques Duclos.
Nous sommes en même temps parmi les plus grands et les plus désintéressés des idéalistes, parce que, l'histoire l'a montré, nous sommes capables de faire le sacrifice de notre existence pour notre idéal sans attendre aucune récompense individuelle.
Je voulais bien les R.
Exactement,
même,
voilà, il est de Haute-Pyrénées, candidat à la présidentielle, dirigeant du PCF à la rocaille sous la langue, qui l'assume cet accent face aux autres candidats qui l'effacent, et ça va petit à petit devenir la règle.
Avec une classe politique, il faut le dire, à la prédominance d'accent du Sud.
Oui, exactement, sûrement plus marqué, donc plus reconnu. On pense à Louis Alliot, maire de Perpignan du Rassemblement National, Charles Pasqua, Gaston Defferre, Jean-Claude Godin, tous originaires de Marseille et de sa région. Et l'accent, c'est important, comme l'expliquait en 1989 le président du Conseil des Bouches-du-Rhône, Louis Philibert.
Voilà, logique politique.
Exactement. Va-t-on assister à un retour des accents politiques, à une revendication régionaliste jusqu'au fond de la glotte? Eh bien, peut-être, quand on se souvient de la fable dite de l'accent et du Mélenchon. Oui. Automne 2018, le président du groupe insoumis à l'Assemblée nationale sort de l'hémicycle, répond aux questions d'une journaliste au fort accent du Sud en imitant son phrasé, limite à se moquer de son accent. Le lendemain, Mélenchon ne plaisante plus du tout et s'excuse.
Je suis désolé de cette histoire avec je ne sais quel journaliste, je croyais qu'elle se moquait de moi. Parce qu'elle avait pris un accent marseillais et que je suis élu de Marseille. Et je lui ai répondu en imitant l'accent. J'ignorais qu'elle l'était elle-même et que c'est son accent. Ce qui nous vaut, séance tenante, toutes sortes d'enquêtes sur les accents et même une proposition de loi contre la glottophobie.
Oui, la glottophobie, oui, c'est la discrimination à l'accent. Ah. Hein, c'est un vrai combat pour certains, comme ce député, vous avez l'entendu, LREM, Bruno Studer, élu du Bas-Rhin, qui n'a pas hésité à l'époque à répondre à Jean-Luc Mélenchon en ces termes dans l'hémicycle.
Pourquoi est-ce que j'ai envie de défendre l'accent alsacien? Peut-être, mesdames et messieurs, parce que c'est au nom de cet accent qu'en Alsace, nous avons subi des moqueries, des brimades. Non, ce n'est pas une honte. Parfois même, des règlements de compte sanglants.
Voilà, la glottophobie, hein, il faut bien retenir ce nom, mettre l'accent sur l'accent, c'est peut-être une future thématique pour la présidentielle 2022.
Voilà, suce à la glottophobie. Merci beaucoup Jean-Mathieu Pernin. À dimanche prochain.
À dimanche prochain.
C'est ainsi que s'achève ce MacPol. Restez avec nous parce que dans un instant, Alain Bougrain-Dubourg refait la planète sur RTL.